Et c'est là que je passe dans ma deuxième colonne. Lien d'attachement. Alors ça, vous connaissez tous, l'attachement. L'attachement, c'est... comment vous dire ça? Je ne vais pas dire que c'est plus vital que manger, boire, mais pas loin. Le petit homme, le petit humain, s'il y a une chose qu'il sait, c'est qu'il a besoin de l'adulte pour survivre. S'il n'y a pas l'adulte, il est cuit. Donc, très naturellement, ça c'est dans notre ADN à nous, hein, il va s'attacher à l'adulte référent. Et quelle que soit la réponse de l'adulte, l'enfant aura un amour inconditionnel pour ses parents référents, ou les parents adoptifs, ou les grands-parents, enfin, les adultes qui sont là. Cet amour est inconditionnel. Ça, c'est une sacrée responsabilité pour les adultes. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, l'enfant nous aimera. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet amour et comment on gère cet attachement? Parce que l'ado, il est bien gentil. Quand il avait 7-8 ans, je le prenais dans les bras, il adorait ça, c'était super. Je lui donnais des câlins, il m'en donnait, il me faisait, ma fille, elle me fait encore des cœurs partout, c'est super, j'adore. En revanche, l'ado, vous croyez que vous allez pouvoir le prendre dans les bras comme ça et qu'il va se laisser faire?
Ouais.
Oh mais ça, toi, t'es formidable alors, c'est super. Mais c'est vrai que c'est super. Les câlins, c'est super à tout âge. 12 ans. Mais c'est super. Profitez, madame, profitez. Mais il a raison. Les câlins, c'est bon à tout âge. Sauf que, qu'est-ce qui se passe avec l'ado? Je vous ai dit qu'il y avait un feu d'artifice au niveau sexuel aussi. Et c'est là où ça bug pour lui. C'est que l'amour qu'il avait pour ses parents, eh bien, c'est plus un amour asexué. C'est-à-dire que lui, il prend conscience, lui ou elle, hein, je parle au masculin, mais ça marche pour les deux sexes, les deux genres. L'ado, il prend conscience qu'il a une puissance sexuelle qui monte en lui, qu'il peut procréer et qu'elle peut procréer aussi. Et du coup, le câlin avec papa et maman, ben forcément, il ne peut plus tout à fait être de la même nature. Et ça, c'est sain, heureusement. D'où la nécessité d'être ultra vigilant en tant que parent, de garder la distance que l'enfant pose comme une distance de sécurité, et en même temps, ne pas arrêter d'aller vers lui pour lui montrer notre attachement à lui, quoi qu'il fasse. D'accord? C'est là où on va devenir un référent soutenant. Dans cette forme d'amour, j'ai eu une question sur l'amour, on en parlera tout à l'heure, hein, parce que elle n'est pas simple cette question. Mais la certitude d'être soutenue, c'est ça. C'est j'ai mon port d'attachement. Filiosa, je vous en parlerai si vous voulez, j'ai pris plein de bouquins d'elle. Elle parle de... Ah ben ça y est, le nom m'échappe. Porte-avions, merci. Robert Bresse, qui est déjà venu aussi, lui, il parle de phare dans les ports. C'est-à-dire qu'un parent soutenant, il est là, il est là. Il ne retient pas le bateau dans son port, il ne le suit pas non plus quand le bateau s'en va, mais il clignote et il répète qu'il est toujours là, quoi qu'il arrive. Ça, c'est hyper sécurisant pour un jeune. Ok ? Quoi qu'il arrive, le phare, il est là. Le port, il est là. Si tu veux partir, c'est là. Si tu veux revenir, je suis là. Ok ? Parce que la question de l'amour... nous on voit ça chez les mamans anxieuses hein. En général les couples c'est maman anxieuse, papa évitant. Ça c'est typique de ce qu'on peut voir, c'est à dire une maman qui va être surinvestie, je réponds un peu à la question, c'est pas grave, qui va être surinvestie auprès de son enfant, pensant, espérant calmer ses propres angoisses. Du coup papa il dit bon allez, hein, c'est bon, elle gère, je vais pas m'emmêler, de toute façon moi je fais tout mal. Et l'enfant, vous croyez qu'il est bien là? C'est pas rassurant. D'accord? Donc, l'attachement pour un ado, c'est vital, toujours autant que quand il était nourrisson, sauf qu'il va se traduire d'une autre manière. D'accord ? Et là, c'est aux parents d'apprendre à s'adapter et à moduler cette notion et à moduler sa manière d'être face à chacun de ses enfants, puisque chacun des enfants va avoir aussi des besoins propres, des besoins uniques. Hein, je l'ai dit en introduction, chaque enfant, chaque ado est singulier, donc on ne fait que des généralités. Mais ce n'est pas grave, la souplesse aussi de l'adulte va être essentielle pour pouvoir créer cette distance juste d'attachement, ni trop près, ni trop collé, ni trop loin. Donc ça implique d'être un peu circassien parfois, mais c'est ça, c'est une espèce de valse, quoi, hein, où on prend la température et puis on voit, tout en tenant bien droit sur nos deux pieds, si on se laisse un peu pousser par là, et si on se laisse un peu pousser par là, est-ce que ça répond ou pas ? C'est une danse, tout simplement. Et ça, ça va donner donc la sécurité affective. Okay, la sécurité qui va peut-être amener à la joie, l'insouciance. C'est possible. C'est possible. Ça va amener à sécurité et puis ça va amener d'autres choses aussi. Alors ça, c'est plus les thérapies neuropsy qui m'ont ouvert à ça, moi. C'est tout ce qui est croyance négative, croyance positive. Alors, c'était pas du tout mon champ d'analyse. Moi qui venais de la psychanalyse, pour moi, tout ça, c'était un peu de la baguette magique, un peu des trucs, là. Et je me rends compte maintenant à quel point c'est fondamental. C'est-à-dire que l'enfant, on va remplir son vase. Imaginez que ce soit un vase, et que dans ce vase, on y déverse plein de choses, hein, le quotidien, nos principes éducatifs, notre fatigue, nos attentes, nos exigences, nos règles, etc. Et puis, au quotidien, on va sortir tout ça d'un certain vocabulaire, d'une certaine attitude. À l'école, il va y avoir aussi des injonctions, des remarques, des jugements. Et puis tout ça, mis bout à bout, ça va créer, nous, ce qu'on appelle le lit du traumatisme. Alors le traumatisme, c'est un grand mot, c'est pas forcément traumatique. Mais il n'empêche qu'il va se créer un canal de croyance. Je prends un exemple. Un enfant, un exemple typique, il a des difficultés d'apprentissage, je ne sais pas, à l'école, il a des difficultés d'apprentissage au niveau de la lecture, par exemple, et la maîtresse lui dit vraiment, t'es pas bon, hein, tu bosses pas assez, t'es vraiment nul. Bon, à la maison, on va imaginer que ça se passe plutôt bien, que les parents sont soutenants, ils ne parlent pas de ça. En tout cas, c'est pas qu'ils ne parlent pas de ça, c'est qu'ils ne vont pas dans le sens de tu es nul, mon enfant. Mais l'enfant grandit. Et puis, il va se retrouver en situation amoureuse, première copine qui lui dit « Oh là là, mais t'es vraiment nul, hein !» Hop, tu es nul. Et puis après, je sais pas moi, encore 10 ans après, il va se retrouver en échec au bac, par exemple. Oh, je suis vraiment nul. Et puis, de nouveau, situation de difficulté professionnelle, licenciement. Oh, je suis vraiment nul. C'est ça le lit du traumatisme, le lit de la croyance négative. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une phrase négative qui n'a l'air de rien, qui n'est pas méchante en soi, ça va être un jugement posé. Si le jugement s'arrête là, terminé. La personne se construit avec d'autres compétences, bon, ça se passe bien. Mais si au fil de la vie, il y a d'autres situations, je vous ai pris une situation assez basique, mais il peut y avoir des situations beaucoup plus critiques, évidemment. Mais à chaque fois qu'il va y avoir d'autres situations sur le fil du temps de son existence, eh bien, ça va venir confirmer cette croyance. Et c'est comme ça qu'on se retrouve adulte à croire fondamentalement qu'on est nul, ou qu'on n'est pas digne d'être aimé, ou qu'on mérite tout ce qu'on a, ou qu'on ne mérite pas ce qu'on a. Et ça, c'est un vrai poison. C'est un vrai poison parce que dans la vie, après, ça bloque. Ça bloque sur plein de situations. Et moi, en tant que psy, je dis toujours à mes patients, on est un peu des Sherlock Holmes, on sort la loupe et on cherche. Et on cherche comme ça, on remonte le temps et on cherche, un peu comme vous avez fait tout à l'heure, là, en introduction, à voir, mais dans quelle situation je me suis déjà dit, je suis nulle. Ah, bah oui, oui, mais ça, c'est pas grave. Bon, mes parents, ils disaient ça, mais c'était pour rire, c'était pas... D'accord. C'était pour rire, mais enfin, ça a été dit, donc on note. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, on trouve cette route-là qui amène au mal-être présent de l'ado ou de l'adulte. La bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi en positif. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir du verbe, du mot, qui est incommensurable. Alors, il ne s'agit pas de dire à son enfant toute la journée qu'il est merveilleux, qu'il est formidable, etc. Ce n'est pas ça. c'est identifier un truc positif. Il y a des, je ne sais plus si c'est des Hollandais ou des Nordiques, qui sont très forts les Nordiques. Ils font un temps, et ça je vais vous en parler au niveau familial, il faut que je me gère un peu parce que je tchatche. Un temps d'introduction à la classe où chaque enfant va venir près de l'enseignant et l'enseignant va lui faire un compliment. J'ai beaucoup aimé ce que tu as fait hier, ta créativité a vraiment dynamisé la classe. J'ai remarqué que tu avais été très patient sur le devoir, bravo. Quand ton copain s'est disputé avec la petite copine, tu es intervenue, c'était difficile pour toi, mais vraiment, tu as très très bien géré. Voilà. Toc, 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 toc. C'est tout. Juste souligner ce qui s'est bien passé. Et là, l'enfant, il remplit son vase de croyances positives. Alors, croyances, j'aime pas trop, parce qu'on dirait que c'est des croyances. Mais de, il se construit avec des compétences. Il découvre qu'il a de la créativité, qu'elle a de la patience, qu'elle a de l'empathie, etc. Oh, c'est formidable ça, on m'avait jamais dit moi que j'avais de la patience ou de l'empathie. Au contraire, tout le monde me dit que je suis ingérable, que je fais n'importe quoi. Donc ça a l'air de rien, c'est énorme. Parce que bien évidemment que dans nos folles vies, et puis dans les, voilà, tout ce qu'on traverse, c'est pas évident, on va avoir tendance à souligner ce qui s'est mal passé, ce qui a été raté, ce qui a échoué, ce qu'on lui a demandé de faire qu'il a encore pas fait, etc. etc. Alors bien sûr, en tant qu'adulte, on pense que ça nous soulage, on pense que ça va finir par rentrer dans sa tête, etc. Mais en fait, c'est complètement contre-productif. Alors je parle à vous, mais je me parle à moi aussi, hein. Parce que c'est pas simple, hein, je suis bien placée pour le savoir. Mais déjà, essayez de s'auto-observer. C'est-à-dire que bien évidemment, quand on s'énerve, bon ben, ouais, mince, c'est parti, je lui ai dit que ce qu'il avait fait c'était nul, qu'il a encore rien foutu, qu'il avait encore une mauvaise note, qu'il allait rien arriver à faire dans la vie. Oh, j'aurais pas dû dire ça, merde. Alors bon, ok, ben on récupère. C'est-à-dire que le cortisol dont je vous ai parlé tout à l'heure, on s'en prend plein aussi, hein, les parents. Ce fameux stress, cette hormone de stress. Donc dans ces cas-là, ok, c'est parti tout seul, c'est parti tout seul. Tant pis, c'est pas grave. En revanche, je suis adulte, moi. Donc moi, je peux prendre ce temps de régulation émotionnelle. C'est-à-dire observer que là, peut-être que j'ai merdé. Et c'est ma responsabilité, c'est pas celle de l'ado, même si c'est lui qui m'a mis à bout. Souvent j'entends « Ah, oh, il m'a encore fait ça !» Non, mais il ne vous a rien fait. C'est pas à vous qui l'a fait. C'est à lui, c'est à elle. C'est à l'intérieur de lui que ça bataille, quoi. Donc le parent, il peut apprendre à se réguler. Ça veut dire, alors quand on est en couple, on peut s'entraider, hein. L'autre, on peut se mettre d'accord sur un code, hein. Par exemple, ok, quand je sens que tu pars trop loin, là, je te mets la main sur l'épaule, c'est que je prends le relais, c'est bon. Vas-y, va boire un verre d'eau, va promener le chien, détends-toi, écoute de la musique, hein, va faire une sieste. Je prends le relais. Ou verre de whisky, c'est vraiment... Il n'y a plus que ça. Un verre d'eau, ça fait très bien l'affaire, parce qu'en plus, l'eau, moi j'ai toujours de l'eau au cabinet, parce que ça permet de réguler les émotions, c'est hyper important. Donc quand on est deux, c'est plus facile, parce qu'on peut se mettre à corps, quoi. Quand on voit qu'il y en a un qui déborde, et ben hop, on peut intervenir. Mais quand on est tout seul aussi, hein, ça déborde, oui, 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 j'ai débordé là, ça y est, c'est parti en sucette. Bon, je vais boire un coup, promener le chien, faire ce que j'ai à faire. On en reparle tout à l'heure. Mais on peut le dire à l'ado, écoute, là, je ne suis pas disposée pour discuter, je suis hyper stressée par ce que tu viens de m'annoncer, par ce qui vient de se passer, je suis hyper inquiète pour toi, ça déclenche mon inquiétude. Tu me donnes un petit quart d'heure, une demi-heure, là, où on mange et puis on en parle après le repas, bon, peu importe, on trouvera un... Et on donne rendez-vous, et puis on verbalise ce qui se passe. C'est pas que je te fais la gueule. Moi, j'avais tendance à faire ça, à partir. Wow. Mais pourquoi tu pars? Ben parce que j'en ai besoin, là. Je peux plus gérer. Maintenant, je verbalise. Voilà. Voilà, là, je suis à saturation. Je vais te dire n'importe quoi, des trucs que je pense pas, donc je m'en vais. Et je reviens. Je reviens tout à l'heure et on parlera. D'accord ? Et c'est là où l'ado, il apprend. Parce qu'il apprend qu'il a le droit d'être en colère, il apprend qu'il a le droit de se tromper, de dire des bêtises qu'il pense pas, et il apprend qu'il peut verbaliser, gérer, réguler. Parce que vous êtes son modèle identificatoire. Je ne l'ai pas mis, c'est sur ma liste. Voilà. Après, oxytocine, il y avait identification modèle. Vous êtes un modèle, vous êtes un référent. Alors, encore une fois, je sais qu'il y a des enseignants, des professionnels de l'enfance. Tout adulte ayant autorité sur l'enfant est un modèle, par définition. Donc, on a le droit à l'erreur, et c'est super quand on se trompe, parce que ça apprend à l'enfant qu'il a le droit à l'erreur aussi. Et ça, ça vaut tous les discours. On n'a pas besoin de parlementer pendant des heures et des heures. Hein. Parfois, moi, je reçois des parents qui sont formidables, qui sont pétris de bonne volonté, mais ils parlent. Et à un moment donné, il faut arrêter de parler, faut y aller, quoi. Faut montrer aussi, pas juste discourir, faut montrer. Parce que si mon discours est par rapport avec ce que je montre, c'est cuit, puis alors là, ils ne nous loupent pas, en général, ça n'arrête pas. Alors, j'ai noté écoute bienveillante. Bon, en fait, c'est tellement évident, mais en fait, pas tant que ça. Écoute bienveillante, ça veut dire non-jugeante. Et alors, non-jugeant, on a l'impression qu'on est non-jugeant, hein, souvent, et pour autant, eh ben, parfois, on juge. On juge cet enfant parce qu'il ne fait pas ce que je lui demande, parce qu'il n'est pas arrivé à mes objectifs, en réalité. Et donc, parfois, je ne suis pas si bienveillant que ça, parce que je vais poser un jugement avant même de l'écouter. Donc, dans écoute bienveillante, il y a écoute, parce qu'ils ont des trucs à dire. Et si on les écoute, c'est-à-dire sans intervenir, sans les punir, tout de suite en tout cas, sans les contrecarrer tout de suite, à ce moment-là, peut-être qu'ils vont pouvoir parler. Mais si dans écoute, il y a contre-argumentation immédiate, ben il n'y a plus d'écoute, en fait, il va se verrouiller et puis il n'y a plus vraiment de discussion possible. Et bienveillante, c'est ça, c'est accueillir l'enfant tel qu'il est, avec ses difficultés, avec ses feux d'artifice, avec sa colère, son envie de solitude, son envie de tout envoyer paître, etc. Et là, effectivement, même s'il a tendance à dormir, il peut mettre une énergie énorme dans l'opposition, le conflit, ils vont se révéler, c'est extraordinaire. Donc c'est plein d'ambivalence l'adolescent, puis je vais m'arrêter là, parce qu'après vous allez, on va discuter. Mais voilà, ce que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit, c'est que l'ado, je ne vais pas dire qu'il est en souffrance, parce que c'est pas vrai, on l'a vu, hein, parmi vous, il y a des gens qui ont des bons souvenirs de leur adolescence, donc c'est pas une fatalité. Mais c'est une période d'entre-deux très inconfortable. Et là, on va avoir un rôle hyper important de cadre bienveillant, et de guide, mais plus de guide dans le modèle que dans les discours. Et ma conclusion, c'était côte à côte plutôt que face à face. Voilà. Je vais boire un coup, et puis comme ça vous laisse le temps de réfléchir un petit peu.